C'est le podcast NHL de The Free Agent.
Bonsoir à tous, bonsoir à toutes et bienvenue en 2022 à tous les amoureux de hockey et déjà bonne année à tous ceux qui aiment la NHL et le hockey sur glace puisque c'est la première fois de l'année 2022 que l'on se retrouve. Et c'est même la première fois depuis déjà 2-3 semaines puisqu'on a été embêté par le Covid, on a été embêté par la trêve de Noël et enfin la NHL est de retour et cross-check avec. Et ce soir pour m'accompagner, on retrouve Eric de Jeu de Puissance. Salut Eric, comment ça va?
Ça va pas. C'est normal que je sois couché comme ça parce que je suis dans mon lit. Hein. Je tiens à le préciser, c'est pour ça.
C'est les joies du vaccin.
Pour
ceux qui veulent être vaccinés, voilà. Et Sam, salut Sam, comment ça va?
Salut Sam, ça fait longtemps. Bah écoute, ça me fait plaisir. Salut tout le monde qui nous regarde.
On va pouvoir enfin reparler un petit peu hockey sur glace.
Voilà.
Ça fait du bien.
Voilà.
Ça fait du bien. Avec une saison qui reprend doucement, puisqu'on a encore des annulations, notamment des matchs qui se déroulent au Canada. Mais quand même, on arrive à avoir quelques matchs par soir, ce qui est déjà une bonne nouvelle. Je vous rappelle que sur Twitter, sur YouTube et aussi sur Twitch. Si vous voulez venir interagir avec nous, venez sur Twitch, vous laissez un petit message et puis on parlera de toutes vos questions sur la semaine de NHL sans aucun problème. On a un programme ce soir avec trois thèmes principaux. Les Jeux Olympiques de 2022, les Oilers d'Edmonton, ça c'est un thème qui tient très cher à Sam, qui adore cette équipe. On rappelle qu'il a le chandail derrière lui, mais il l'a caché.
Le
poster de Connor. Ouais, voilà, il a le poster de Connor McDavid au-dessus de son lit, mais il n'ose pas nous le dire. Et enfin, les Rangers de New York, qui eux, au contraire des Oilers, performent plutôt bien en ce moment. On commence tout de suite par les Jeux Olympiques de 2022 qui ont lieu, comme tout le monde le sait, à Pékin dans quelques jours maintenant. On est à un petit mois des Jeux Olympiques. Et la NHL a annoncé le 22 décembre que les joueurs de NHL ne seront pas autorisés à aller rejoindre leur sélection, comme ça avait été le cas déjà à Pyeongchang en 2018. Alors, les Jeux Olympiques sont... Les joueurs NHL, est-ce que le tournoi est toujours intéressant? Qui va en profiter? C'est l'autre question. Eric, petit avis sur les joueurs. Tu trouves ça logique? Tu trouves ça dommage?
Alors, est-ce que ça va être intéressant, la première question? Ben non, obligatoirement, ça sera moins intéressant que s'il y avait les joueurs NHL. Hein. C'est comme si...
Ah, ça, c'est sûr.
C'est un peu comme le tournoi de football, de football, de soccer pour les Nord-Américains, qui se déroule pendant les JO. C'est moins intéressant parce que toutes les stars ne sont pas là. Donc, obligatoirement, ça ne peut être que pas intéressant. Et est-ce que c'est normal? Je dirais que... Je vais être peut-être un contre-courant, mais je dirais que oui, c'est normal parce que le calendrier il est compliqué et donc si on veut jouer tous les matchs, il va falloir faire jouer pendant la trêve des JO. Mais c'est incohérent parce que si c'était vraiment problématique et ça l'est par rapport à tous les matchs reportés, il fallait faire aussi sauter l'All-Star Game.
Voilà.
Après, je ne sais pas comment c'est compliqué de faire sauter l'All-Starium, vu que c'est déjà tout préparé.
On rappelle que la raison invoquée par la NHL pour justement ne pas laisser les joueurs aller aux Jeux Olympiques, c'est précisément cette question de calendrier avec presque plus de 60 matchs, je crois, maintenant qui ont été reportés. Donc forcément, ce besoin de recaser à un moment ou à un autre les matchs. Avant la saison, la NHL avait dit au comité olympique qu'il serait d'accord pour laisser les joueurs y aller à la condition que la pandémie ne vienne pas affecter le calendrier de la NHL. Comme la pandémie est de retour aux États-Unis et au Canada et que les matchs sont reportés, c'est en toute logique, si j'ose dire, que la NHL a décidé de ne pas laisser ces joueurs aller aux Jeux Olympiques. Sam, toi, ouais. Qu'est-ce que ça t'inspire?
Bah, écoute, d'un côté, je me dis, évidemment, ça nous enlève une grande fête du hockey qui aurait pu amener plein de gens à découvrir les joueurs de la NHL, parce que c'est quand même un événement bien évidemment mondial. Mais après, pour nous ouvrir justement à de nouveaux joueurs qui viennent des autres championnats, je pense que ça peut être plus ou moins intéressant. On va découvrir forcément des nouveaux noms parce que des équipes qui y vont et des joueurs qui y seront, il n'y a pas vraiment de noms qu'on connaît spécialement. Donc, ça va permettre de découvrir des nouvelles personnes et peut-être de sortir cette vision du hockey qui est que de la NHL, de s'intéresser aux autres ligues. Donc, pourquoi pas il faudra jeter un coup d'œil. Après, c'est sûr qu'au niveau du jeu, ça sera différent. Ça sera plus un hockey rude à l'européenne. Mais spectaculaire.
Je vais rebondir là-dessus sur la découverte des autres championnats. On va se demander, même si la réponse semble assez évidente comme ça, mais on va quand même la poser. Les Russes sont champions olympiques, enfin le comité olympique russe, puisque maintenant on ne parle plus de Russie aux Jeux olympiques, mais les athlètes olympiques russes sont champions olympiques. Est-ce qu'il y a une équipe qui va réussir à leur poser problème, sachant que la KHL est quand même un gros championnat avec beaucoup de talent aussi. Est-ce que tous les joueurs de KHL qui vont composer l'effectif russe, est-ce qu'ils auront vraiment une concurrence face à eux dans ces Jeux olympiques, Eric?
La KHL, j'ai une question, parce que je ne sais pas, mais la KHL libère oui. ses joueurs?
Normalement, la KHL libère ses joueurs, oui. Enfin, je sais que les gros clubs comme le SKA Saint-Pétersbourg ou le CSKA ont déjà dit qu'ils libéreraient leurs joueurs russes. Donc, il y aura par exemple Nikita Gusev du SKA qui sera là normalement pour la Russie. Il y aura d'anciens joueurs NHL qui maintenant sont en KHL qui seront là. Ouais.
D'accord, oui, on verra les Russes. Mais après, faire attention à tout ce qui est Finlande, Suède, qui ont toujours un vivier très fort. Or, je rappelle que la Finlande... le dernier champion du monde, il s'était très très bien classé. Il n'avait aucun joueur à NHL. NHL c'était peut-être pas le dernier, mais non. Mais voilà quoi. Donc voilà, ça reste tous ces pays.
Et il y a un club finlandais, faut pas l'oublier. Il y a un club finlandais qui joue en KHL aussi, le Jokerit tout Helsinki, qui joue en KHL, donc qui est dans l'un des meilleurs championnats d'Europe aussi. Donc faut pas les oublier non plus. C'est vrai que les Finlandais ont beaucoup de bons joueurs, les Suédois également, les Allemands avaient fini deuxième aux Jeux Olympiques de Pyeongchang. Donc pourquoi pas aussi, hein, on ne sait jamais. Donc voilà, ceux qui vont forcément en pâtir le plus, Sam, on va pas se cacher, c'est le Canada et les États-Unis.
Ah oui, non, c'est clair. Ah, oui.
Parce que eux, pour le coup, il n'y a pas énormément d'Américains qui jouent en Allemagne ou en Russie. Il y en a, hein, mais pas beaucoup.
Il y a toujours un ou deux Américains par équipe ou Canadiens dans un peu toutes les ligues, surtout en France d'ailleurs, paradoxalement. Donc, ils vont avoir une équipe potable, mais je pense que ça va pas tenir contre les Russes. Ils ont des joueurs qui se connaissent, qui jouent ensemble toutes les semaines, ou contre. Donc, il y aura la philosophie du deuxième plus grand championnat de hockey sur glace au monde. Je pense pas.
Et est-ce qu'à votre avis, ça peut, même si on sait qu'il y a des affaires de gros sous chez les joueurs et tout ça, mais je pense à Steven Stamkos, par exemple, qui a dit qu'il était extrêmement triste de ne jamais pouvoir faire une Olympiade, puisque probablement que la prochaine en 2026, il sera un peu âgé, et qu'il avait raté celle de 2014 à cause d'une blessure. Donc, il a fait ni 2014, ni 2018, ni 2022. Est-ce que ça peut avoir un impact sur leur saison aussi, un impact psychique et psychologique sur le déroulement de leur saison?
Pour le coup, j'ai vu juste deux secondes que certains joueurs, il y avait TJ Oshie et justement Steven Stamkos, qui avaient pensé à mettre un terme à leur carrière en NHL, faire les Jeux Olympiques et après revenir pour pouvoir justement contourner le contractuel. Mais dans tous les cas, je pense que là, les joueurs vont laisser passer pour pour faciliter le travail du NHL board. Mais après, ça se retrouvera peut-être sur des négociations un peu plus aisées pour d'autres mesures qui seront prises à l'intersaison ou quoi, sur les salaires, par exemple.
Et toi, Eric, sur ce côté joueur, sur ce côté psychologique?
Non, je pense pas qu'ils vont être affectés. À chaque fois, ils nous refont la même chose. Déjà, Pyongyang, c'était la même chose.
J'ai envie de jouer pour mon équipe.
Mais voilà, je vais jouer pour... Mais après,
pour mon équipe nationale.
On sait que ces joueurs, ce sont avant tout des professionnels qui jouent pour une ligue privée et qui savent que quand tu joues pour une ligue privée, t'es pas maître de ta carrière, même, je dirais. T'es pas totalement maître de ta carrière. Et donc, voilà.
Et il faut rappeler que les joueurs ont été, enfin, que le syndicat des joueurs a été consulté aussi, hein, dans la décision. Ça n'a pas été fait unilatéralement. C'est un accord entre la NHL et le syndicat des joueurs. Donc, il y a quand même, même si on sait que les discussions sont parfois, on sait des fois comment ça se passe, mais il n'en reste pas moins que c'est pas une décision unilatérale. Toujours est-il que pour ces Jeux Olympiques, donc on ne retrouvera pas les joueurs de NHL, on s'en désole tous. On parlera quand même des Jeux Olympiques dans nos différentes émissions de hockey pendant le mois de février. On rappelle également qu'on ne retrouvera malheureusement pas l'équipe de France, qui est tombé en tournoi de qualification olympique, que ce soit les femmes ou les hommes, si je ne dis pas de bêtises, hein, vous m'arrêtez si j'ai une bêtise.
Oui, c'est
je
ça.
Crois que les deux ont été éliminés.
Contre la Suède, ouais, elles ont fait un gros tournoi, elles ont perdu malheureusement contre la Suède en finale, entre guillemets.
Donc, les femmes, elles méritaient, et les hommes, pas trop, quoi.
Voilà. Mais au moins pour les femmes, on aurait été contents. On aurait été
contents que
les Françaises soient à Pékin. Elles n'y seront pas, mais nous parlerons quand même. Nous aurons l'occasion de revenir sur les Jeux Olympiques. On revient maintenant à la NHL pure, entre guillemets, au jeu, au classement, aux dynamiques des différentes équipes, avec une équipe qui actuellement inquiète un petit peu. Bon, alors Sam va nous dire ça l'inquiète depuis le début de la saison. C'est les Oilers d'Edmonton. Repositionnons un peu le contexte des Oilers d'Edmonton depuis un mois. Alors c'est précis, hein, c'est du 4 décembre au 4 janvier, donc comme ça, ça fait vraiment un mois tout pile. Ils ont joué pendant cette période-là 12 matchs exactement. Ils en ont gagné 2 contre Columbus et contre Seattle. 10 défaites, 2 victoires et seulement 3 matchs pendant lesquels ils ont marqué plus de 3 buts. On sait que c'est une équipe qui marche avant tout avec une grosse attaque, les Oilers d'Edmonton. Mauvaise nouvelle en plus pour eux aujourd'hui, puisque Connor McDavid est officiellement dans le protocole Covid. Donc en plus, déjà que ça n'allait pas fort en ce moment, mais il commence à avoir des joueurs qui tombent, et pas des moindres, parce qu'on ne remplace pas Connor McDavid en un claquement de doigts. Donc ça commence à faire beaucoup. Avant de réfléchir à ce qui manque à Edmonton pour monter un palier, Eric, est-ce que la situation d'Edmonton t'inquiète ?
Oui, c'est inquiétant. Moi, je suis un peu sceptique par rapport à cette équipe qui avait vraiment bien commencé. Et là, ils retombent dans leurs travers. Je trouve que c'est un peu les travers que peut avoir de temps en temps Toronto. D'ailleurs, ils jouent ce soir ensemble. C'est que d'un point de vue, je sais pas quoi, il y a quelque chose qui se casse, quoi. Et j'avoue que je suis assez surpris. Hein. À la différence de ça, moi, je trouvais qu'ils avaient fait un beau début de saison. Et je suis assez surpris de voir que tout s'écroule, quoi. Après, il est évident que quand Leon Draisaitl et Connor McDavid ne jouent pas à leur niveau, ça devient tout de suite plus compliqué, hein, mais bon.
C'est certain. Sam, 111 buts marqués, 107 buts encaissés. C'est les chiffres d'Edmonton depuis le début de saison. Ouais. 107 buts encaissés, ça les met au niveau des Sharks de San Jose, ça les met au niveau des Senators d'Ottawa, donc des équipes qui ne sont pas forcément réputées pour être plus solides. Voilà. Évidemment, la défense pêche, mais en ce moment, l'attaque aussi. Qu'est-ce qui t'inquiète le plus, la défense ou l'attaque ?
Il n'y a pas vraiment de choses qui m'inquiètent, franchement, c'est Edmonton.
Alors, qu'est-ce qui te ravit plus ? Qu'ils se gaufrent en attaque ou qu'ils se gaufrent en défense ?
Le plus inquiétant, c'est qu'ils se gaufrent en attaque, parce que le système est basé là-dessus. Comme ils ont sur le terrain 5 attaquants, à enfin sur la glace, à tout moment ils ont 5 attaquants puisque les défenseurs sont offensifs. Ça crée forcément des équilibres qui devraient favoriser leur attaque. Aujourd'hui, ils n'y arrivent plus. Peut-être parce que leurs superstars sont fatigués de se faire taper dessus sans vraiment de retour. J'en parlais dans un papier qu'on a mis sur le site. Mais il n'y a pas, y a pas de personnes qui vont protéger McDavid. Je ne sais pas si vous avez vu une vidéo qui a tourné un peu sur Twitter et sur Instagram. Du match contre New York, justement, où McDavid se prend un grand coup derrière la tête devant la cage, que par Trouba, justement, dont on parlera probablement plus tard. C'est Yamamoto qui fait 1m73 pour 67 kilos, qui vient essayer de corriger Trouba, qui le prend par le casque et qui le jette, en fait.
Allez, dégage.
Le problème, c'est que c'est pas possible une transformation de jeu offensif sans l'aspect rugueux qu'a le hockey. On peut pas transformer ça vers un show offensif, comme par exemple il y a eu en NBA où il y a de moins en moins de défense. Ça n'existe pas en NHL. Là, il le montre complètement Edmonton. Ils avaient fait un bon début de saison. Le problème, c'est que les équipes, elles s'adaptent, elles changent d'entraîneur, elles changent de board, de manager. Donc forcément, ça crée des équipes de plus en plus fortes. Et aujourd'hui, Edmonton, ils sont prêts de perdre les places de play-off.
C'est précisément ce que j'allais dire. Aujourd'hui, ah oui, la transition est parfaite. C'est une passe de Tom Brady pour Antonio Brown quand il n'est pas tout nu dans la end zone adverse. Il y a en ce moment, ils ont 38 points, les Oilers. Ils sont quatrième de la division Pacifique. 2 points de retard sur Calgary, 5 sur Anaheim et 7 sur Vegas. Mais surtout, avec juste derrière eux, les Kings, les Sharks et les Canucks qui reviennent très bien depuis le changement d'entraîneur.
Ouais.
Une division Pacifique qui s'annonce quand même relativement serrée, au moins pour les places 3-4, 2-3-4, j'ai envie de dire, si on considère que Vegas est un petit cran au-dessus. Est-ce que, on va faire les réponses l'un puis l'autre, est-ce que les Oilers vont se qualifier pour les playoffs?
J'y vais moi.
Vas-y, Eric. C'est compliqué. Et puis on est à 33 matchs sur 82. Donc
je dirais que oui.
À long terme.
Je dirais que oui. Parce que bon, on a quand même les deux meilleurs joueurs du monde. Un moment ou un autre, ça redémarre. Quoi. Après, comme tu dis, il n'y a pas l'aspect physique. Mais bon, je crois que leurs joueurs physiques, ils sont blessés. Quoi, parce qu'Asian, il est où?
Oui, il est
voilà, blessé, donc, voilà, donc.
Ouais, mais il n'y a que lui, et au final, si on regarde, il ne se bat pas tant que ça ou quoi que ce soit, donc c'est un peu compliqué.
Après, ce que Edmonton peut-être n'a pas compris, que manque-t-il à Edmonton?
C'est la question.
C'est que depuis, par exemple, on va répondre à la question après, tu vois, New York. C'est que Edmonton, ils n'ont pas compris, c'est que maintenant, pour gagner une Stanley Cup, il faut avoir des mecs qui tapent. Quoi. C'est-à-dire, il faut pas avoir que des stars qui marquent des buts.
Là tu mets cette équipe en playoff, ils sont sortis au bout de 4 matchs. Hein,
il faut avoir des mecs qui tapent, comme la troisième ligne de Tampa Bay, comme les Blues de Saint-Louis, qui avaient que des mecs qui tapaient vraiment très fort, qui gagnent le championnat. Donc, voilà. Le Lightning, quand ils sont éliminés par les Blue Jackets de Columbus, eux, ils comprennent tout de suite que c'est ça le problème. Ils font cette fameuse troisième ligne, Goudreau, Gourde et Coleman. Mm. Et cette troisième ligne, elle a été déterminante sur les deux dernières années, quoi, pour gagner la Stanley Cup, parce que ces dégâts, même si tes joueurs stars ne sont pas là, eux, ils vont taper. Et donc, quand les équipes adverses se font taper toute la soirée, ben, ça déstabilise un peu quand même. Mm.
Et toi, Sam, tu les playoffs, oui, non?
Ouais, bah en fait, je pense, mais ça va dépendre du travail de Kenneth Holland, le GM. Avant la trade deadline, donc c'est le 12 avril, ils vont devoir prendre des attaquants de puissance et surtout des défenseurs. Parce qu'à un moment, ça suffit de jouer avec Bouchard et Duncan Keith, qui sont très bons, mais dans leur registre. On attendait ce travail et tous les fans d'Edmonton que je suis sur Instagram, sur Twitter, attendaient ce travail de prendre des joueurs durs et qui savent travailler et un gardien. Bien ça,
bon. Ah oui, oui. Moi j'ai vu le match de Koskinen contre New York, c'est une catastrophe.
J'allais venir au gardien.
Mais en tout cas, pour l'instant, non, s'ils gardent cet effectif-là, ils sont capables, Kenneth Holland est capable de repartir avec cet effectif à la fin de la trade deadline. À un moment donné, je pense que le propriétaire de la franchise, qui est autre que Wayne Gretzky, si je ne me trompe pas, ouais, c'est ça, faire un peu tout bouger. Kenneth Holland, s'il ne fait rien avant la trade deadline, il sort. Et pareil pour le coach Dave Tippett, il s'en va. À un moment donné, ce n'est pas possible de continuer sur cette dynamique, sachant que tu gâches, comme je dis à chaque fois, le talent d'un des meilleurs joueurs de l'histoire. Quoi. À un moment donné, c'est dommage, c'est triste. Connor McDavid, c'est un joueur exceptionnel et il n'est pas bien entouré. Donc, ça ne marche pas. Donc, pour les playoffs, pour finir, non. S'ils ne changent pas, non, ils n'iront pas en playoffs.
Et en parlant de McDavid, j'ai trouvé, là, lors du dernier match, là, surtout, je sens McDavid complètement blasé. Quoi. J'ai l'impression qu'il n'y arrive pas.
C'est vraiment l'idée que je me suis fait aussi. Ouais. T'as l'impression qu'il est au bout de sa vie, le pauvre Connor McDavid. T'as l'impression qu'il est. En même temps, il faut le comprendre aussi. Hein, je veux dire, c'est ce que tu dis, Sam. C'est quand même un joueur exceptionnel. Et tu te dis, il n'est pas bête, Connor McDavid. Il sait très bien qu'avec cette mentalité-là, il finira peut-être meilleur buteur 4 années de suite. Hein, ou meilleur pointeur du championnat, mais pour gagner une Stanley Cup, ça suffira pas, quoi. Et peut-être qu'il y a un moment où ça va commencer à suffire, quoi. Où il va dire ça va, quoi. Il va falloir changer ou je m'en vais, hein.
Parce qu'il a fait quand même depuis qu'il a joué en NHL, il a fait deux fois les playoffs.
Oui, c'est ça.
Donc non. Et c'est pas les deux tours ou trois tours de playoffs, c'est un tour de playoffs et puis après c'est fini, quoi.
Non, c'est bien je crois que la première fois il a fait plusieurs tours.
Ah, attends, oui, je
crois qu'il avait fait au moins à 3 tours.
Ok.
Et problème au niveau des gardiens. Mike Smith, 39 ans. Koskinen, au chou depuis le début de la saison. Alex Stalock, qui ne verra pas du tout la saison 2021-2022. Ça paraît quand même. Alors, je rappelle juste les stats des gardiens rapidement. Mikko Koskinen, c'est 12 victoires, 7 défaites, une moyenne de buts encaissés à 3,19 et 90% de taux de save. Et Mike Smith, 2 victoires, 1 défaite, 3,91 en moyenne de buts encaissés et 89,7% de taux d'arrêt. Il y a un vrai problème aussi au niveau des gardiens.
Le truc, c'est que... Vas-y, Eric.
Je dis, moi, j'ai vu le match de Koskinen contre New York, c'est une catastrophe. Après, quand t'es défenseur et que t'as un gardien comme ça, c'est compliqué. Hein, parce que...
Il simule bien. Il simule
à la
bien.
Ah ouais, c'est une catastrophe.
La simulation de Koskinen sur la poussette dans son dos alors qu'il enferme un joueur dans son propre bus, elle est magnifique, quand même.
Moi, je suis assez déçu par Koskinen parce que la première année, je l'avais pas trouvé si mauvais que ça, mais je trouve qu'il s'enfonce petit à petit. Quoi, donc...
Ouais, le truc, c'est que je sais pas si vous avez vu justement, mais il y a eu tout un drama autour de ça parce que Dave Tippett a tapé sur Koskinen en conférence de presse et Koskinen a répondu en lui disant mais je prends 4 buts, mais là le problème c'est l'attaque et moi je suis gardien donc je marque pas de but. Donc il y a l'air d'avoir en plus de ça
une belle ambiance.
Ouais. Voilà. Il prend 3 buts, 0.2 à peu près, 3,2 buts par match.
Ouais, c'est ça, 3 buts en moyenne, 3,19.
Il va descendre probablement ce soir en dessous des 90% d'arrêt.
Alors, ce soir, c'est Mike Smith au but pour Edmonton.
Voilà, super.
Bon, après, ils ne sont pas aidés non plus. Hein.
Le prochain match, mais c'est ça. En plus, le truc, c'est que cet été. Edmonton avait la place de faire rentrer un gardien et il y en avait 40 bons gardiens, meilleurs probablement que Koskinen sur le marché. Il y avait du Grubauer qui a été pris à l'expansion, mais il y en avait j'ai plus les noms en tête. Et il y avait Markstrom par exemple, il y avait qui, il y avait Mrazek, Reimer, à un moment donné, ouais, c'est pas possible de ressortir juste avec Koskinen et puis de combler son cap en prenant Duncan Keith contre Caleb Jones et puis de faire rentrer Zach Hyman qui n'est pas spécialement étincelant depuis le début de la saison.
Ah, moi, je ne suis pas d'accord sur Zach Hyman. Je crois qu'il a amené quand même quelque chose à cette équipe. Quoi.
Ouais.
Là, il s'avère qu'ils sont dans le trou, donc il n'y a personne qui est étincelant. Connor McDavid et Lontra Seidel, ils ne sont pas étincelants, quoi, tu vois.
Non,
ah bah non, c'est le moins qu'on puisse dire, non, c'est clair.
Mais en même temps, ouais, ils n'ont plus personne à faire étinceler non plus. Donc, vraiment, ouais, soit ils s'étincellent tous les deux, soit c'est un peu. En ce moment, c'est extinction, ouais, des feux du côté d'Edmonton. Et tant qu'ils ne vont pas réussir à faire un ou deux bons matchs de suite où ils vont sortir de cette dynamique, et c'est ce que tu dis, Sam. Le problème, c'est que là, c'est en train. Et moi, c'est ça qui m'inquiète pour la suite de leur saison. C'est que c'est en train de virer au drama, quoi. C'est Koskinen qui remet ça sur l'attaque, l'attaque qui remet ça sur la défense qui remet ça sur l'entraîneur. Et tu sens pas une cohésion d'équipe formidable, tu sens pas l'envie de s'en sortir ensemble, quoi. Hein, tu vois, je me tire dans les pattes qu'on s'en sort ensemble. Et c'est sûr qu'avec cette attitude-là, c'est pas sûr. Et Koskinen en numéro 1, franchement, ça me paraît très light pour aller loin. Hein. Ça me paraît vraiment. Ça va être compliqué. Ça va être compliqué, mais enfin bon. Les prochains matchs d'Edmonton, tiens, c'est ce soir contre Toronto à Toronto. Bon courage, chers amis, si vous êtes fan des Oilers, ça va pas être facile tous les jours. Ensuite, ils auront un petit peu de repos parce que leur prochain match contre les Islanders est reporté. Ils ont un match le 11 janvier contre les Senators d'Ottawa à domicile. Et ensuite, leurs trois matchs suivants sont reportés, donc ils auront une semaine complète de repos avant un match contre Chicago. Donc voilà, pour les prochains rendez-vous, ce sera, donc on a dit, Toronto... c'est Ottawa et Chicago. Voilà. On y verra un petit peu plus clair d'ici 15 jours, puisqu'ils vont jouer très très peu pendant les 15 prochains jours. On passe maintenant à une équipe qui, elle, va bien, pour le coup, c'est les Rangers de New York. Alors que, paradoxalement, ce n'était pas forcément l'équipe qu'on attendait forcément le plus en début de saison. On n'avait pas mis une pièce énorme sur une possible qualification encore, pourquoi pas, mais pas forcément pour aller plus loin. Ils sont sur trois victoires de suite et pas des moindres. Une victoire contre Tampa Bay, deux victoires contre Tampa Bay et une victoire contre Edmonton. Alors, on parlait des gardiens du côté d'Edmonton. On va faire la même remarque du côté de New York, mais cette fois dans l'autre sens. Avec Igor Shesterkin, je vais laisser la parole à Sam en premier parce qu'il a écrit un article dessus, ouais. Donc il connaît bien le bonhomme. Igor Shesterkin, qui fait une saison absolument énorme.
Bah, stratosphérique, franchement, il est en route pour le Vezina avec Jakob Markstrom et c'est tout. Et peut-être Demko, mais vraiment, il va falloir un peu plus. Il y en a un troisième que j'ai plus.
Bobrovsky,
ouais, à voir. Donc, c'est sûr que pour sa deuxième saison à NHL, c'est vraiment le pilier de cette équipe de New York. Même quand ils n'arrivaient pas trop à gagner en ce début de saison, il arrivait à vraiment tenir l'équipe et. Ils subissent beaucoup de tirs pour le coup, les Rangers. Et Shesterkin fait un gros travail. J'ai plus ses stats en tête, hein, exactement.
Je vais pouvoir te les retrouver dans quelques toutes petites secondes.
Il prend deux buts par match et à 93,6% d'arrêt. C'est énorme. Franchement, c'est énorme. Comme Jack Campbell, le troisième. Gardien qui est un peu plus ou moins en route vers le Vezina. Cette équipe, justement, elle arrive, comme tu le disais tout à l'heure, à impliquer tout le monde. On a des superstars en la présence de Panarin, de Zibanejad, évidemment, ou de Chris Kreider qui marque beaucoup de buts. Mais on a aussi le secondary scoring, donc les deuxième et troisième trios, qui marque plutôt pas mal. Lafrenière, on avait peur de son début de carrière, il commence petit à petit à s'installer, à marquer de plus en plus. Capo Caco également fait une bonne deuxième partie de saison, s'il avait, pareil, commencé un peu moyen. Et Dylan Strom, l'assistant capitaine, est toujours bon sur le deuxième centre. Donc, c'est intéressant de voir cette équipe un peu évoluer. On a des joueurs assez jeunes, pour le coup. Il y a pas beaucoup de vétérans, si on regarde bien, mais ça suit même la défense, parce que Fox et Lindgren, premier duo, c'est très jeune. Keandre Miller, c'est sa deuxième saison. Trouba, il est pas si vieux que ça, il a 27 ans. Donc, c'est sympa de voir cette équipe-là. C'est une équipe physique, pour le coup. Qui sait jouer dans sa zone et qui arrive à s'en sortir offensivement avec des atouts qui ont été construits en fait petit à petit par un très bon management qui a changé il y a 3-4 ans.
Petit point statistique global des Rangers depuis le début de la saison. Sur la défense, c'est la quatrième défense en nombre de buts encaissés. On en a parlé avec Chester Kane qui est responsable en grande partie de ce succès défensif. C'est pourtant la 20e équipe qui concède le plus de tirs au but, hein, quand même 31 tirs par match. Ils sont quatrième aussi en penalty kill. Quatrième meilleure équipe en penalty kill. C'est la 7e meilleure équipe en power play offensivement. Et pourtant, c'est l'une des équipes qui tire le moins au but, 28 tirs par match. C'est la 29e équipe de NHL. Alors, Eric, les Rangers fonctionnent bien. Même question pour Sam. À quoi est-ce qu'on doit ce succès-là ?
Je pense que le changement a eu lieu la saison dernière, lors du match contre Washington, où Panarin se fait blesser. Et le match d'après où il y a eu une baston générale. Ça, c'est un changement qui va être radical pour la direction et surtout pour le président qui dit « Moi, je ne veux plus qu'on se fasse humilier comme ça sur la glace. Donc, vous vous débrouillez comme vous voulez, mais il n'y a plus d'humiliation sur la glace de qui que ce soit. » Et donc, ils vont chercher Reeves. Ils vont chercher... il y avait Jacob Trouba, mais qui a vraiment durci son jeu. D'ailleurs, il est vraiment en question par rapport à beaucoup de mises en échec qu'il fait, qui sont certes pour certains limites, pour d'autres non, mais voilà. Et donc, le jeu s'est énormément durci. Et quand les Rangers sont sur la glace, les autres équipes savent qu'elles vont se prendre des coups, quoi. Et on a pu le voir contre les Oilers d'Edmonton, Draisaitl
et McDavid
ont été totalement menottés par la défense. Une défense qui est des fois rugueuse, des fois un peu limite. Mais voilà. Et je pense que là, c'est un tournant. C'est, à mon avis, à peu près le même tournant. Ils ont aussi changé d'entraîneur. Moi, quoi qu'en disent les statisticiens, je trouve que Gérard Gallant a toujours été un très bon entraîneur. À chaque fois qu'il a été en place, il a fait de très bonnes choses. Il l'a fait aux Panthers de la Floride, où il s'est fait humilier, jeter comme un malpropre, alors que son équipe tournait plutôt pas mal. Il l'a fait à Vegas, où la première saison où il est à Vegas, il est en finale de la Stanley Cup. Donc quand même, c'est pas n'importe qui. Et là, il le fait avec les Rangers de New York. Voilà, donc... Après, moi, j'aime bien ces équipes qui tirent pas beaucoup et qui marquent beaucoup de buts. Parce que comme ça, les statisticiens, ils se tirent, je comprends pas, c'était pas possible.
Il tombe tout le temps.
Un an dernier.
C'est pas croyable.
C'est pas ça. C'est que les statistiques, maintenant, ne sont plus dans le nombre de buts marqués, mais dans le nombre de tirs effectués. Donc, on peut, voilà.
Ah oui, bien sûr.
Et donc, les Jets de Winnipeg, Peg a toujours été la ligue détestée des statisticiens parce que justement ils arrivaient à gagner alors qu'ils tiraient pas beaucoup et voilà, qu'ils n'avaient pas un super corsi. Et là, les Rangers deviennent la nouvelle équipe qui va poser des soucis à nos amis statisticiens.
Je te rassure, des fois les Jets de Winnipeg sont aussi détestés par leurs propres supporters, hein. N'est-ce pas, Sam?
Ça va un peu mieux.
Ça va mieux.
Et t'es supporter de toutes les équipes de la NHL?
Seulement les Jets, hein. Les Oilers.
Seulement les Jets. Hein. Les Oilers, c'est une blague. Hein. Ils détestent les Oilers.
C'est vraiment l'inverse.
Non, il est que fan des Jets et de, ouais. Et de Nicolas Sellers encore plus depuis hier soir. Mais on y reviendra dans l'émission à 22h. Ouais. petite projection, puisque la question c'est les Rangers peuvent-ils être la surprise de 2022. On a fait le point tout à l'heure avec les Oilers sur le classement. Petit point sur la division métropolitaine. Les Rangers et les Capitals sont à égalité, 48 points, 34 points de jouer tous les deux, en tête de la division. Derrière, on a les Hurricanes à 47, avec 3 matchs en moins, et les Penguins à 41, avec 3 matchs en moins aussi. Suivent ensuite les Flyers, avec déjà 16 points de retard sur les Rangers de New York. Donc il y a un vrai fossé entre les 4 premiers et les 4 suivants. Question, jusqu'où va aller New York cette année ? En play-off, ça semble bien parti. Peuvent-ils viser encore plus loin, Eric ?
Play-off, c'est sûr. Bah, je pense.
C'est très bien parti.
C'est très bien parti. Mais est-ce que pour leur première année en play-off avec les jeunes, même si c'est un peu plus dur, ça me paraît un peu compliqué tiens, pour aller chercher une Stanley Cup.
Sam ?
Ouais, pareil, en fait, si on regarde un peu l'effectif, même si tous les joueurs sont bons, hein, il n'y a pas de souci là-dessus, il y a peu de joueurs qui ont une expérience de match, enfin d'une longue campagne de play-off, en fait. Donc ça m'étonnerait qu'ils aillent chercher une finale de Coupe Stanley, une finale de Conférence Est, peut-être, même s'ils n'arriveront pas à aller chercher les Capitals, en tout cas. Je pense que ça va aller en play-off. Et puis, c'est l'année 1 du projet, entre guillemets. Tout le monde reste assez jeune, pour le coup. Donc ça ira probablement plus loin dans les prochaines années. Pour l'instant, c'est peut-être un peu tôt.
C'était précisément, tu vois, une nouvelle fois la question que j'allais poser. Donc, à croire qu'on a répété, alors que pas du tout. Hein, c'est l'habitude de faire des émissions ensemble, mon cher Sam. J'allais dire, la surprise de 2022, donc peut-être pas pour aller au bout. Mais plus loin, les années suivantes, ça vous semble, le projet semble quand même bien parti de reconstruction des Rangers. Il y a quand même de belles bases.
Oui, ça va être une des équipes qui va jouer la Coupe dans les prochaines années, c'est sûr.
Impeccable.
Ben, le truc, c'est que Adam Fox a 23 ans. C'est un des meilleurs défenseurs de la Ligue. Capocacco a 20 ans. Lafrenière. Pareil, et après on a les superstars, il m'a déjà dépassé lui, il a 28 ans, Chris Kreider 30, et Panarin, il doit avoir 26, non il a 30 ans aussi pardon. Donc,
et
chez Starkin on a 26. Donc ça peut aller encore un peu plus loin avec le même groupe, rester comme l'a fait par exemple Tampa, avec des jeunes qui sont bons, donc les Cirelli, Brandon Point et Gourde, et aller chercher une Coupe Stanley, ou en tout cas s'imposer comme une équipe du vraiment très haut de tableau, et qui va très loin en play-off pour les 3-4 prochaines années, pourquoi pas.
Alors, pour répondre donc à notre ami Bertrand, qui est membre de l'équipe NFL de The Free Agent, qui est un fan des équipes de New York, et notamment des Giants en NFL, et aussi des Rangers en NHL, le titre pour cette année, non, ils seront plus proches que les Giants en NFL, mais sûrement pas encore pour cette année. Mais t'inquiète pas, patience, ça devrait arriver dans quelques années peut-être. Ça arrivera plus vite que New York en NFL, en tout cas. Normalement, ça ira dans ce sens. Les amis, avant de se quitter, petit coup de cœur, coup de griffe, qu'est-ce qui vous a plu, pas plu dans cette reprise de NFL ? Ça peut même aller jusqu'à juste avant le Covid, puisqu'on ne s'est pas vu depuis 3 semaines. Donc, le Covid fait partie des coups de griffe, si vous voulez. On commence par ce qui vous plaît pas, comme ça on finit par une note positive. Un petit coup de gueule, Eric, après quelqu'un, après quelque chose.
Non, pas trop de coups de gueule. Rester positif.
Sam,
contre le Covid, qui fait qu'on ne voit pas tous nos matchs.
contre le Covid. Le Covid, il nous embête bien. Il embête tout le monde. Hein. C'est comme ça. Sam, un petit coup de contre quelqu'un.
Oui, peut-être un petit, mais c'est vraiment pas le plus méchant que je ferais.
C'est un chaton. C'est une griffe, voilà, de chaton.
Un coup de petite griffe. C'est Minnesota qui a perdu ses 5 derniers matchs contre les Kings, les Knights, Buffalo, les Stars et les Blues. C'est assez surprenant vu. En fait, ils étaient sur une série de 8 victoires consécutives et là ils enchaînent avec 5 défaites. C'est un peu surprenant, mais après il y avait des absents forcément comme toutes les équipes. Ça va revenir de plus belle. Et puis ils ont perdu en plus le Winter Classic, là, le match en extérieur, où la défense était particulièrement aux abonnés absents. Pas ce à quoi ils nous ont habitués, mais ils vont se remettre. Minnesota, ils en voient quand même.
Et pour le coup de cœur, Eric, un petit truc positif.
Moi, le coup de cœur, ça va être les Panthers de la Floride, qui, je trouve, est vraiment une belle équipe cette année. Et en plus, hier, j'ai vu le match, il y avait des spectateurs. Il y avait plein de spectateurs, il y avait une ambiance. C'était incroyable. J'en revenais pas.
Alors, pour ceux qui connaissent pas la NHL parfaitement, le public, oserais-je dire que le public a souvent été raillé? Non, l'absence de public a souvent été raillée du côté de la Floride. Et c'est vrai que c'était une salle qui sonnait particulièrement creux.
Hier, il y avait du bruit. Hein.
Et bien, hier, il y avait du monde. Et comme quoi, hein, c'est pas mal. Hein. On parlait des Hurricanes de Carolina qui avaient réussi à leur implantation et à ramener du monde dans leur patinoire depuis plusieurs années. Va savoir, ça se trouve, les Panthers vont finir par avoir un public de folie dans quelques années. On ne sait jamais.
Pas de secret qu'on gagne.
Moi, je crois. Bientôt, peut-être la même chose à Buffalo, qui sait.
Il faut gagner.
Ils sont tous dans le stade de foot US à Buffalo. Ils ne peuvent pas tout faire. Ils sont en train de se geler en extérieur pendant ce temps-là. Un petit coup de cœur, Sam.
Ouais. C'est mon deuxième joueur préféré après Nikolaj Ehlers. C'est Jack Hughes, le centre de New Jersey. Il a été élu cette semaine du coup dans les 3 étoiles de la semaine avec 5 points sur 3 matchs. Il s'était blessé, donc il a loupé une dizaine de matchs cette saison et il me manquait. Donc il est revenu et il est très bon. Je l'ai en fantasy, ce qui me plaît encore plus.
Quand on sait, rappelons-le, que tu as Connor McDavid et donc que depuis cet après-midi,
il compense un peu. Je suis triste, mais il y a Jack Hughes. Donc,
tu es un peu inconsolable.
Voilà. C'est ça. Ça fait plaisir de le revoir là. Il est toujours de bonne humeur. C'est un super joueur. Et donc,
tiens, cool petite, de le voir. Petite question qui n'était pas prévue, mais comme on a encore 2-3 minutes, on va en profiter. Ouais. Il y a le Winter Classic au Target Field de Minnesota cette semaine. C'était dans la nuit de samedi à dimanche, si ma mémoire est bonne. Les matchs en extérieur, ça vous plaît, ça vous plaît pas?
Il y a des débats. Ça me plaît quand ils sont à 1h européenne. Tu vois. Ça, je peux les voir.
Il était à 1h du matin ou 2h du matin.
À 18h, 19h, et ça, c'est bien. Quoi. Sinon, non.
Et toi, Sam?
Ça me laisse plus ou moins indifférent. Mais le problème, c'est qu'il y a un espace entre les balustrades du coup, et les tribunes qui me laisse penser à. Les gens, ils ne voient rien.
C'est sûr que. Et en plus, on va saturer quand même.
En déclin que d'habitude, la critique principale du hockey, c'est on ne voit pas le palais même à la télé.
On
ne
voit pas le palais.
Là, franchement, je pense que les gens qui étaient tout en haut du stade, ils ne voyaient pas grand-chose. Pour le coup, en France, j'avais vu à Grenoble, la Ligue Magnus avait fait.
Grenoble et Lyon.
Fait un événement comme ça, c'était sympa, l'ambiance elle était un peu différente des matchs d'habitude avec les périodes de Noël, etc. Après, franchement.
Et on tire un grand coup de chapeau aux spectateurs qui ont bravé les moins 26 degrés du Minnesota pour pouvoir assister à un match où ils ont même pas vu le palais, c'est quand même brillant.
J'ai vu la photo avec la Bud Light, la canette de Bud Light. qui
on fait pas de pub hein. De bière
sorti ouais.
Oui c'est compliqué, il y avait des gens avec des barbes qui avaient des stalactites aussi sur la barbe, c'était assez compliqué. Ils avaient pourtant distribué des bouillottes et de la soupe chaude dans les travées du Target Field, mais ça n'a visiblement pas suffi à réchauffer nos amis du Minnesota. Et oui, c'est comme ça, que voulez-vous. Donc bravo à ceux qui ont bravé les moins 26 degrés, honnêtement je ne l'aurais pas fait. Pour cette soirée NHL, ces petits trois quarts d'heure, entre trois quarts d'heure et une heure de revue d'effectifs de la NHL. Pour les prochains rendez-vous NHL, on se retrouve mercredi pour Cross Check, mercredi prochain, 20h45. Merci beaucoup, Eric, pour ta présence, malgré ton état de santé difficile. C'était un plaisir et on vous invite évidemment tous à suivre, si vous ne le faites pas déjà, Jeux de Puissance sur Twitter. Ça s'écrit comme ça se prononce. Hein. C'est marqué Jeux de Puissance. Voilà, hein, c'est pas très dur à trouver. Voilà, je mets les noms comme ça, il y a ton nom marqué et les gens peuvent retrouver. Vous collez tous les mots et vous allez retrouver sur Twitter Eric qui fait un très bon boulot avec son compte. Donc allez-y, n'hésitez pas. Et puis Sam, Sam, il n'y a pas besoin de lui faire sa pub puisqu'il sera avec nous d'ici 30 minutes. Voilà. Merci encore à vous deux et on vous souhaite à tous une très belle soirée. À plus.
Ciao.